France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Les mathématiques du sous-continent indien s'écrivent depuis des millénaires. Pourtant, elles restent méconnues chez nous alors qu'elles ont contribué de façon décisive à l'histoire mondiale de la discipline. De la numération à la trigonométrie en passant par les algorithmes, comment ces concepts ont-ils voyagé dans l'espace et dans le temps et sous quelle forme orale ou écrite ces idées mathématiques ont-elles été transmises en langue sanscrite, mais pas que. Science Chrono parcourt aujourd'hui le temps et l'espace du monde indien à la recherche de ces mathématiques qui ont rayonné au-delà de leurs frontières. Bonjour Agathe Keller.
Bonjour.
Vous êtes historienne des mathématiques, directrice de recherche CNRS au laboratoire Sphère de l'université Paris-Cité. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous raconter cette histoire longue des mathématiques indiennes. Avant de nous diriger vers le sous-continent indien, je vous donne le menu de l'entretien archéologique du jour. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'un des sites archéologiques les plus connus de France, Carnac, en Bretagne, connu notamment pour ses alignements de menhirs. Et on parlera de travaux très récents qui ont établi une nouvelle cartographie du sous-sol du site avec des découvertes surprenantes. Mais avant cela, retour à notre histoire des sciences. Aujourd'hui, on parle d'une histoire mathématique à la frontière entre tradition écrite et transmission orale. Et on parle de la très longue histoire des mathématiques du sous-continent indien. On ouvre ce nouvel épisode de Science Chrono, comme chaque semaine, avec une archive. Écoutez la voix de Guy Mazard, spécialiste de l'histoire des sciences en Inde. Il répondait aux questions d'Émile Noël le 29 mai 1985 sur France Culture, dans l'émission « Le matin des mathématiciens ».
Effectivement, nous savons peu de choses à l'heure actuelle sur les mathématiques indiennes. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est sans doute que les historiens des sciences ont longtemps suspecté la science indienne de manquer d'originalité, d'être fondée d'abord sur des emprunts à la Grèce et plus tard sur des emprunts à la science arabe. Quant aux spécialistes de l'Inde, en s'intéressant surtout aux aspects culturels, aux religions, aux philosophies de l'Inde, eh bien, ils ont contribué à accréditer dans le grand public l'idée selon laquelle l'Inde ne serait après tout qu'une nation de philosophes et de contemplatifs. Bref, l'Inde aurait été grande par ses philosophies et ses religions, bien plus que par sa science. La réalité est tout autre, car les recherches les plus récentes dans le domaine de l'histoire, des sciences et des techniques de l'Inde nous montrent qu'elles étaient plus développées qu'on ne le pensait jusqu'ici.
Mais alors, à quand remontent, par exemple, les plus anciennes données, les plus anciennes traces qui nous permettent à la fois de connaître le contenu et de dater un peu l'histoire de ces mathématiques?
Eh bien, les premiers éléments d'une histoire des mathématiques en Inde nous sont fournis par les Védas. Ce sont ces recueils, ces collections d'hymnes, de chants, de formules sacrificielles, dont les plus anciens morceaux pourraient remonter aux alentours de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Mais les connaissances attestées dans cette littérature védique ont un caractère élémentaire, pragmatique, ce sont essentiellement des éléments de géométrie servant à la construction des édifices nécessaires au rituel védique.
Voilà, Agathe Keller, la voix de Guy Mazard, un propos qui a bientôt 40 ans. Est-ce que c'est un propos qui date? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué concernant cette histoire des mathématiques du sous-continent indien?
Et alors, je retiens deux choses de ce que dit Guy Mazard. Il y en a une qui est assez juste, en fait, même si on n'emploierait peut-être pas les mêmes termes qu'aujourd'hui. La perception qu'on peut avoir trop souvent de l'histoire du savoir dans le sous-continent indien est souvent, on pense aux religions et on connaît très peu les traditions savantes rationnelles. Et par ailleurs, ce qu'il dit sur les textes les plus anciens qui nous ont été transmis en sanskrit. Par contre, il y a quelque chose de très juste. Donc, les plus anciens textes qui nous ont été transmis, c'est des textes dont les plus anciens datent peut-être de 600 avant notre ère et qui décrivent effectivement, algorithmiquement, comment on peut construire des aires sacrificielles de taille donnée, comment on peut faire des pavages avec des briques, notamment des pavages en forme d'aigle aux ailes déployées, pour le sacrifice. sacrifice, mais ces textes contiennent aussi des propositions générales et théoriques, donc notamment le théorème dit de Pythagore, mais aussi des règles pour faire des approximations, par exemple, de racines carrées, qui sont assez étonnantes. Voilà, et donc aujourd'hui, on accepte le fait que ces textes, qui sont très nombreux d'écoles différentes, témoignent aussi de savoir théorique.
Élaboré, voilà, dès l'Antiquité. On parle de sous-continent indien, on va utiliser parfois, par facilité, le terme de mathématiques indiennes. Il faut quand même qu'on circonscrive cette zone géographique dont on va parler. Ça n'est pas que l'Inde. Est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, où est-ce qu'on va se situer durant cette émission?
En fait, ce qu'il faudrait dire, pour être tout à fait juste, c'est peut-être employer un terme plus général et un peu plus flou, qui est celui d'Asie du Sud, puisque, en fait, ça regroupe le Pakistan actuel, mais même une partie de l'Afghanistan actuel, mais aussi le Sri Lanka, le Bengale, peut-être une partie du Bhoutan, donc du sud-nord à l'est, en fait, c'est des frontières plus larges que les frontières nationales actuelles. Et ça permet de souligner aussi à quel point, quand on parle de mathématiques indiennes ou pakistanaises ou françaises, en fait, on utilise des catégories nationales qui elles-mêmes ont une histoire et qui donnent comme ça une fausse impression qu'il y aurait une sorte d'identité liée.
Une forme de suprématie aussi liée à un pays plus qu'à un autre. Je retiens aussi quelque chose, Agathe Keller, dans ce propos de Guy Mazar qui m'a interpellé. Il dit « on connaît mal les mathématiques indiennes ». Qu'est-ce qui fait que nous autres Européens, finalement, on ait eu du mal à aller au-delà finalement du monde arabe, on va dire, pour ce qui est des mathématiques?
Eh ben, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que dès les débuts de l'indianisme, et même avant, beaucoup de savants, en tout cas, des savants européens se sont intéressés aux tables astronomiques qu'on pouvait trouver en langue sanskrite dans le sous-continent indien, et les premières personnes qui ont appris des langues de l'Inde, que ce soit le bengali ou le sanskrit ou le persan, puisque le persan est aussi une langue du sous-continent indien, s'intéressaient, avaient une passion en fait pour les mathématiques et l'astronomie, notamment Henry Thomas Colebrook, qu'on appelle parfois le père de l'indianisme. Donc en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé au cours du 19e et du 20e siècle qui fait que dans la formation de l'indianisme, les sciences, et notamment les sciences dures, ont disparu de l'horizon, d'un côté.
Alors, quand on parle d'histoire des mathématiques du sous-continent indien, moi j'aime bien aussi réfléchir à la pratique aussi d'historienne des mathématiques, ce qui est votre métier. Sur quel type d'ouvrage vous allez travailler, sur quel type de texte et sur quel type de support aussi vous allez projeter vos travaux de recherche?
Donc, en ce moment, je fais l'édition d'un commentaire du 9e siècle et je travaille, donc j'ai trois manuscrits différents de ce commentaire et c'est des manuscrits en feuilles de palmier. Deux sur trois sont en feuilles de palmier, donc c'est des manuscrits en format paysage et qui ont été gravés avec des aiguilles. Donc, et sur la feuille de palmier qui est un support imperméable. Et donc, une fois que c'est gravé, on peut mettre de l'encre dessus et lire les textes. Voilà, donc la feuille de palmier, c'était un support traditionnel des manuscrits, mais ça s'abîme très vite. Et donc, les textes qui nous ont été transmis, c'est les textes qu'on a eus par copie continuelle. Voilà. Et un autre des manuscrits que j'ai, c'est donc un manuscrit papier. Donc, on a des manuscrits papier à partir du 16e, 17e siècle, qui date du 19e siècle.
Vous parlez de copie continuelle, de support qui se dégrade. Cette dimension de continuité, elle est hyper importante quand on parle de mathématiques et d'histoire des mathématiques dans le sous-continent indien. Continuité, donc, par le commentaire écrit de ce qu'on reçoit et qu'on va réécrire. Commentaire aussi à l'écrit de savoir oraux, transmis à l'oral. Alors parlez-nous un peu de ce cadre culturel dans lequel va s'établir ce savoir mathématique, de ses spécificités d'une certaine façon, spécificités qui sont éloignées quand même de nos pratiques, peut-être à nous occidentaux européens.
Donc c'est sûr que dans la tradition savante sanskrite, de manière générale, on privilégie peut-être c'est un peu un trope, enfin une manière de se représenter, ça ne veut pas dire que c'était forcément vrai, mais on privilégie une transmission orale du savoir. Donc on va créer des traités versifiés, en sutra, donc avec des formes très courtes, avec l'idée que c'est des textes qui sont faits pour être performés, pour être dits à l'oral, peut-être pour être appris par cœur. Mais en fait, il y a, et par ailleurs, les pratiques dont témoignent ces traités sont des pratiques qui nécessitent des inscriptions. Mmh. Donc, on va tracer des chiffres, on va dessiner des diagrammes. Donc ça, c'est une première articulation de l'oral et de l'écrit dans les traditions savantes, notamment en mathématiques et en astronomie. Et par ailleurs, il y a, parce que des savoirs mathématiques, il y en a dans toute la société, et notamment donc auprès des marchands, dans les artisans, en fait, dans la vie quotidienne, on utilise les mathématiques de plein de manières différentes. Et dans ce cadre-là, et dans l'éducation des enfants, quelle que soit leur caste, mmh.
Oui, parce etc. que là, vous parlez du sanskrit. Le sanskrit est quand même réservé aux castes les plus hautes.
Voilà, c'est un savoir élitiste. Mmh. L'apprentissage, n'était pas forcément réservé à ça. Et donc là, il y a des traditions, on connaît peu en fait, mais c'est les traditions de devinettes qu'on utilise dans le cadre d'apprentissage. Le mot m'échappe, mais c'est dans des métiers particuliers. Donc si on est arpenteur, si on est marchand, si on est tisserand, et le fait qu'il y ait des devinettes mathématiques pourra entraîner en fait les apprentis, c'est quelque chose qu'on connaît en Inde, mais qu'on connaît aussi dans la Mésopotamie ancienne, mm-hmm. qu'on connaît dans l'Europe médiévale, et ce qui est assez intéressant...
C'est des moyens mnémotechniques finalement assez
simples. C'est une manière aussi amusante d'apprendre, mm-hmm. on va poser un problème, il faut savoir le résoudre, donc il y a une sorte de challenge qui est... En fait, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que ça vaut historiquement de dire une chose pareille, mais quand on va dans les lycées et qu'on s'amuse à confronter les élèves d'aujourd'hui avec ces devinettes, bah, ils les trouvent rigolotes et ça les intéresse d'arriver à résoudre le problème, bien plus que les problèmes savants qu'on peut trouver. Mais ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on sait que ces problèmes-là, les devinettes, elles circulent dans l'Antiquité, donc elles circulent des rives de la Méditerranée. On les retrouve en Chine et on les retrouve dans l'Asie du Sud, voilà, dans toute l'Asie en fait.
Vous parlez de l'Antiquité, on entendait dans l'archive tout à l'heure Guy Mazard parler de la tradition védique et du fait qu'il y ait un gros travail de commentaire finalement du Veda, de ces poèmes sacrés, religieux. Quand on pense religion, on pense pas forcément à un commentaire qui va inclure des mathématiques, et pourtant c'est le cas, notamment de textes de Baudhayana. Donc ça, est-ce que vous pourriez nous parler de ces commentaires-là, de ces Sulba Sutras et finalement des concepts mathématiques qu'on va retrouver dans ces textes antiques?
Alors, comme je vous le disais, il y a toute une réflexion qu'on peut voir sous-jacente. Peut-être de mathématiques générales.
La formulation du théorème de Pythagore.
Mais peut-être de manière plus profonde, il y a une manière de nouer des relations numériques. Donc, par exemple, ce qu'on appelle des triplets pythagoriciens. Donc, le fait que on peut avoir des nombres dont le carré est égal à la somme de deux carrés. Donc, ça, c'est une relation numérique auquel on peut faire correspondre des figures avec des aires qui peuvent s'additionner. Mmh. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert à structurer. Dans ces textes, un rapport à l'autel. Donc il y a une sorte de lien qui est fait entre une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce lien entre des relations numériques et des relations géométriques, questions qui vont beaucoup préoccuper des mathématiciens européens au XIXe siècle, et une pensée religieuse. Mais il y a autre chose aussi, c'est que par les mesures, en fait, la mathématisation et la quantification qu'elles permettent, en fait, ces mesures, elles permettent de donner un sens au rituel qui est fait. Donc, par exemple, c'est un travail d'un collègue japonais, Teshima, dans un ouvrage à venir qu'on est en train de coordonner avec Mathieu Husson qui s'appelle Sciences astrales, mathématiques et rituels. En fait, lui montre que il y a certaines écoles des Sulba Sutras, dont l'école d'Apastamba, qui va se reposer sur toutes les mesures vont reposer sur le corps de l'officiant, enfin de la personne qui paye pour le rituel. Donc on va prendre la taille de son corps avec la tête au-dessus de ses mains, on va prendre la taille de son bras, la taille de son pouce, et tous les airs vont être à la mesure de son corps. Et donc, on voit comment, du coup, les airs sacrificiels mettent son corps en relation avec les dieux. Bao Dayana, lui, va faire partie d'une école qui va prendre des objets extérieurs, donc des grains de sésame, des choses qui sont plus standardisées pour faire ces unités de mesure. Donc, l'espace du rituel n'a pas le même sens. Alors, je ne peux pas vous dire quel sens religieux ça a, mais on voit comment l'idée des idées mathématiques, des idées de mesure, peuvent aussi prendre un sens religieux. Il y a un autre auteur qui s'appelle Mahavira, qui est Jain, qui date du Xe siècle.
Jain, c'est une autre religion.
C'est une autre religion. Et lui aussi va écrire un texte de mathématiques très populaire, parce que justement, il va reprendre à son compte un peu de ces devinettes qu'on savait, qui circulaient, mais bon, lui, dans une tradition plus savante. Et d'ailleurs, il va utiliser la poésie pour montrer un peu qu'il est d'une tradition un peu savante. Et lui, il va utiliser beaucoup de concepts hérité de la cosmologie Jain.
Ouais. Alors si on parle de cette dimension poétique, on prend un peu d'avance, mais c'est important aussi de faire entendre ces formulations. Vous m'avez envoyé un petit texte quand on préparait l'émission, et donc c'est un texte de Mahavira, donc que vous citiez à l'instant. Je le cite: sur les jamboisiers, les citronniers, les bananiers, les arequiers, les jacquiers, les dattiers, les phénix des marais, les lataniers, les muscadiers, les manguiers et bien d'autres arbres, les branches pliaient sous le poids des fruits et des fleurs. Autour des bassins de lotus où vagabondaient les abeilles, des familles de perroquets et de coucous, de leurs chants d'hiver, remplissaient l'espace. Des voyageurs épuisés, à la lisière de ce bois pur et rafraîchissant, arrivèrent joyeux. Ils étaient 23, ils comptèrent 63 régimes de bananes, y ajoutèrent 7 bananes et se partagèrent le tout à parts égales. Dis-nous la mesure d'un régime. Donc ça, c'est hyper intéressant de se dire que voilà, là, on a un problème mathématique qui est formulé avec tout un tas de circonvolutions. On a un espace qui ressemble à une tapisserie indienne médiévale telle qu'on se l'imagine, très très flamboyante, très très luxuriante finalement.
Et je pense que c'était il y a eu une bascule en fait dans les cultures savantes sanskrites aux alentours du Xe siècle, où tout d'un coup la poésie et la poésie savante, le kavya, va servir un peu de badge d'honneur pour montrer le raffinement des traditions savantes. Donc ça commence un peu avec Mahavir, mais on le voit aussi chez un autre auteur au XIIe siècle, Bhaskara, qui va écrire un texte arithmétique dédié à une jeune femme, Lila, et qui est tout plein de problèmes dans ce genre.
Qui sont formulés de façon tout à fait jolie, on va le dire. Enfin, il y a une dimension esthétique importante dans cette formulation-là.
Dans la Lilavati, qui est le nom de ce texte arithmétique dont je parlais tout de suite, donc Lilavati, ça veut aussi dire en s'amusant. Donc il y a aussi une dimension ludique,
On a parlé, Agathe Keller, de Mahavira, de Bhaskara, donc c'est des grands noms de cette histoire des mathématiques. On peut le dire, il y a peut-être un âge d'or de la culture sanskrite autour des mathématiques entre le 5e et le 12e siècle, ce qui est quand même une jolie fourchette. Quels autres personnages importants de cette histoire des mathématiques du sous-continent indien on pourrait présenter, et avec quel, finalement, apport conceptuel on pourrait les accompagner?
Jusqu'à présent, en fait, j'ai parlé de textes qui étaient des textes uniquement consacrés aux mathématiques, mais en fait, on a, à partir du 5e siècle, des auteurs qui vont écrire des traités d'astronomie et de mathématiques. Bon, on parle souvent des sciences astrales, parce qu'il y a aussi toute une dimension astrologique qui est aussi liée au développement de l'astronomie et de l'astronomie mathématique. Et dans ce cadre-là, il y a des noms comme Aryabhata au 5e siècle, dont notamment la table de Sinus va devenir extrêmement célèbre, parce qu'elle va être traduite et utilisée dans le monde de langue arabe. Donc quand on parle d'âge d'or, je voulais le dire, c'est aussi parce que, en fait, il va y avoir une florescence, une diffusion des savoirs sanscrits, et notamment des maths et de l'astronomie, dans l'Asie en général. Donc ça peut aller du Cambodge ou dans toute une partie de l'Asie du Sud-Est, jusque dans tout toute une partie du monde arabe et de l'Asie centrale.
Quand on parle d'ailleurs de numéros et de chiffres arabes, a priori, donc du coup, si j'ai bien compris en préparant cette émission, ils doivent quand même beaucoup à l'Inde, cette pratique de numération-là.
En tout cas, les auteurs arabes, eux, parlent de chiffres hindous. En fait, donc, il y avait toute une pratique des numérations sur position. Donc ça, c'est des pratiques, d'ailleurs, qui, au début, sont sûrement des pratiques savantes. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des marchands, pas forcément, ne les utilisaient pas forcément au départ. C'était utilisé pour des calculs astronomiques. Et les pratiques sur position, on en trouve en Mésopotamie, on en trouve en Chine avec des bâtons de calcul, et on en trouve des traces aussi dans le monde savant de langue sanskrite.
On parle de numération, Agathe Keller. Quel autre champ conceptuel, mathématique, on peut explorer et avec aux côtés de ces mathématiciens indiens et du sous-continent indien?
Donc, un des apports importants des astronomes, en tout cas, ça a été dans le champ de la trigonométrie, avec l'utilisation du sinus, en fait, pour travailler à l'interface entre une géométrie plane et arriver à rendre compte de mesures sur des arcs de cercle. Donc, il s'agissait de mesurer le temps, en fait, les mouvements des planètes qu'on pensait organiser autour de cercles concentrique. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, dès Aryabhata, le sinus, qui est l'une des grandes inventions qu'on attribue à la culture savante sanskrite, elle a deux dimensions. Il y a une dimension numérique, donc on va avoir des tables qui vont être transmises par des sutras qui sont comme des petites bibliothèques, en fait, de valeurs numériques, et par ailleurs, par des diagrammes, donc quelque chose comme un cercle trigonométrique, donc un cercle où on peut voir se dessiner tous les triangles rectangles. En fait, il suffit de tracer des diamètres qui sont orthogonaux les uns aux autres, puis de tracer des triangles et des cordes de cette manière-là, et on voit apparaître tout un tas de triangles rectangles qui permettent d'articuler comme ça les valeurs des arcs par rapport à des valeurs de segments. Et donc ces descriptions de diagrammes, en fait, vont devenir des sortes de motifs. Donc ce diagramme-là, on va le voir circuler comme une petite bibliothèque de toutes les procédures qu'on peut faire de manière mnémonique. Voilà.
On parlait Agathe Keller, pardon, d'Aryabhata. Donc là, on est plutôt vers le 5e siècle. Il y a un autre nom aussi qui revient souvent quand on parle d'histoire des sciences indiennes et du monde indien, c'est Brahmagupta. Brahmagupta, lui, il est plutôt dans le commentaire, la critique d'Aryabhata. Comment ça se passe? Je crois qu'il se tient un peu là-haut.
Donc effectivement, faut dire que Aryabhata, c'est quelqu'un de provocateur. Il va se construire, il va arriver en disant que pour lui, le cosmos qu'on doit penser pour pouvoir rendre compte des mouvements du temps, des planètes, etc., c'est un cosmos où la Terre tourne sur elle-même
les planètes tournent autour de la Terre.
En fait, les planètes seraient immobiles et elles apparaissent comme étant comme bougeant. Mais c'est une illusion. D'accord. Donc, lui, il dit ça. Et donc, dans la cosmologie traditionnelle, qui est une cosmologie qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve en Cambodge, il y a l'idée que la Terre est immobile et, en fait, structurée, le cosmos en entier est structuré par une montagne qui s'appelle le Mont Meru. Et donc, les planètes tournent autour de la montagne, en fait. De cette manière-là. Et donc, Aryabhata va susciter beaucoup de critiques, et notamment des critiques virulentes de Brahmagupta. Mais même dans la transmission du texte d'Aryabhata, c'est assez rigolo et ça montre comment la formulation est importante. Donc les vers d'Aryabhata sont courts, chaque syllabe compte. Et quand on veut dire que la Terre tourne, on va utiliser le terme, pour parler de la Terre, on parle de Bhu. Et dans la transmission du texte, il va y avoir une modification et on va parler de Bha, qui est le cosmos. Donc on va transformer le verbe pour en faire un cosmos qui tourne et pas la Terre qui tourne.
Voilà. Et la conceptualisation du zéro aussi, ça c'est doit beaucoup, beaucoup à cette culture du sous-continent indien, Agathe Keller.
Donc en tout cas, Brahmagupta, il donne des règles de calcul sur zéro. Donc c'est un des premiers textes qu'on a où, parce qu'on peut penser zéro de plusieurs manières, donc zéro comme le résultat de quelque chose où il n'y a rien. Et on peut penser zéro comme un nombre en lui-même qui, sur lequel on doit faire, comme un opérateur sur lequel on doit faire des opérations particulières. Zéro multiplié par zéro, c'est zéro. Et comment est-ce qu'on divise zéro? Voilà. Mmh. Mais il y a aussi le zéro de, d'énumération de position. Donc souvent, quand on parle de l'histoire de zéro, on a peut-être tendance à confondre ces trois zéros en un seul, alors que leurs histoires sont peut-être séparées.
Tout à l'heure, Agathe Keller, on évoquait le fait qu'il y ait une grande continuité entre écrit et oral dans cette histoire des mathématiques du sous-continent indien. Comment ça se manifeste, comment ça se traduit, cette continuité-là? Et finalement, comment faire des mathématiques à l'oral? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif.
Mais je ne sais pas s'il y a une continuité vraiment qui se manifeste. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, que c'est que d'un côté, donc effectivement, avec Sentil Babu, il y a une vingtaine d'années maintenant, on avait fait en Inde du Sud un terrain d'ethnomathématiques où on était allé récolter des devinettes que des personnes qu'on avait pu transmettre à des personnes dans la première moitié du XXe siècle. En Inde du Sud. Et ces devinettes, elles avaient comme caractéristique qu'elles semblaient se moquer des problèmes à la Mahavir qu'on a lu, de la sophistication, mm-hmm, de ces problèmes qui, quand on veut les résoudre, s'avèrent toujours un peu laborieux, un peu compliqués à résoudre. Et donc souvent les devinettes elles-mêmes, elles ont quelque chose, elles reposent sur des astuces. Et comme ça. Et donc il y a ce rapport-là. Et par ailleurs, on a l'impression quand même, on le disait avant, c'est-à-dire que ces poèmes sophistiqués, etc., ils semblent être une manière d'appropriation de ces traditions de devinettes orales. Et là, il y a vraiment quelque chose aussi de politique et de quelque chose dans la langue qui se joue, puisque les devinettes de Nagapattinam, c'est des devinettes qui étaient en tamoul.
Oui, donc pas en sanskrit, pas dans cette langue de l'élite, d'une certaine façon.
Bon, le tamoul, c'est aussi une tradition ouais, savante, mais c'est un peu cette idée-là. En tout cas, ce que je vous racontais, c'est que, par exemple, Mahavir, ce texte a un problème de partage. Et donc, je connais un tisserand qui m'a raconté que son maître à tisser, au Gujarat, lui donnait comme exercice ce type de problème de partage, parce que quand on est tisserand, même aujourd'hui, quand on est traditionnel, on doit savoir déterminer le nombre de fils de couleurs dont on a besoin pour faire certains motifs, et ça revient à ce problème de banane à partager.
Et Agathe Keller, donc on parle, alors là c'est un champ temporel immense quand même de toute l'histoire des mathématiques dans le sous-continent indien, mais je me posais la question du regard occidental aussi sur ces mathématiques-là. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a eu beaucoup d'échanges finalement dans toute l'histoire des mathématiques, que ce soit venu d'Inde, du monde arabe, d'Europe, de Grèce, etc. Tout ça est assez, assez mélangé, mais le regard qu'ont porté les historiens des sciences et des mathématiques sur ces mathématiques-là au XIXe siècle, en Europe notamment, après la colonisation finalement britannique, quel est-il? Comment ça a finalement peut-être modifié aussi notre regard sur ces mathématiques-là?
En fait, paradoxalement, comme je vous le disais, il y avait au début du 19e siècle un enchantement avec les cultures savantes de l'Inde. Et donc, quand Henry Thomas Colebrook, en 1817, a traduit Brahmagupta, dont on a parlé, Bhaskara, dont on a parlé, en fait, il a été lu avec passion par Schall, par des mathématiciens aussi en Allemagne, qui ont trouvé chez Brahmagupta, ce dont j'ai pas parlé, mais il y a des mathématiques assez élaborées, des problèmes indéterminés du second degré, liés à des problèmes de géométrie, et qu'ils ont trouvé intéressant pour leur propre culture, pour leur propre recherche mathématique. Et en même temps qu'il y avait ça qui se passait, il y avait un discours plutôt chez des gens qui faisaient de l'éducation, qui étaient responsables de l'éducation dans la colonie britannique de l'Inde, des discours très d'histoire des mathématiques, très normatifs, en disant que il y avait rien d'intéressant dans le sous-continent indien. Et ça a suscité chez les mathématiciens d'Inde de l'époque une réaction, une volonté de raconter leur histoire. Et on en voit encore les conséquences aujourd'hui, parce qu'on a une histoire des sciences qui est extrêmement politisée dans les sphères publiques d'Asie du Sud aujourd'hui.
Oui, quand il y a un gouvernement nationaliste comme en Inde aussi, comme celui de Narendra Modi, c'est sûr que ça joue aussi. Quoi,
voilà, dans et cette avec une volonté de réformer l'éducation des mathématiques pour en faire une mathématique qui serait une mathématique védique, donc en accord avec la religion. Mais ce que je voulais souligner dans ces discours-là, donc qui ont une histoire et qu'on a du mal à comprendre, c'est que elles nous tendent un miroir au discours que nous on tient quand on parle de mathématiciens européens sans prendre en compte l'histoire globale des maths.
Merci beaucoup à vous, Agathe Keller, d'avoir fait finalement ce cours d'introduction à l'histoire des maths indiennes. On pourrait y passer. C'est beaucoup plus d'heures et ça a été plein d'heures sur chacune de ces figures et de ces personnages qu'on a évoqués. On se quitte en musique, mais on s'éloigne pas complètement des maths. Di kridenta din din ta trikritta din din ta dagne tatak di tak di tak di kridenta din din ta trikritta din din ta dagne tatak di tak di tak din. Vous avez suggéré ce morceau, Agathe Keller, Chartal, Kisawari par Zakir Hussain pour tourner cette première page de Science Chrono. On laisse derrière nous les mathématiques indiennes et le sous-continent indien et on part vers les côtes bretonnes dans un lieu où les menhirs poussent comme des fleurs. Il est l'heure de l'entretien archéologique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La commune de Carnac, en Bretagne, est mondialement célèbre pour ses milliers de menhirs. Érigés au néolithique, en ligne ou en cercle, on sait peu de choses sur les raisons d'être de ces monuments mégalithiques. Et leur dimension patrimoniale semble avoir pris peu à peu le pas sur la possibilité de leur étude scientifique et archéologique. En 2024, plus de 70 ans après les dernières fouilles réalisées par des archéologues nazis, une nouvelle campagne de fouilles non-invasive a été réalisée sur le site afin d'en cartographier le sous-sol et qui sait, nous apporter plus d'informations sur le pourquoi et le comment d'une telle organisation mégalithique. Les résultats de ces travaux sont particulièrement riches et nous permettent non seulement d'élargir les frontières du site, mais aussi de révéler de nouvelles structures invisibles à l'œil nu qui nous mettent sur la piste des bâtisseurs de ces alignements. Et nous sommes en ligne aujourd'hui avec deux des artisans de cette récente campagne de fouilles d'un genre nouveau. Depuis les studios de France Bleu, rebaptisés ici à Toulouse, nous sommes en ligne avec Vincent Art. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, chargé de recherche CNRS au laboratoire Traces de l'Université Toulouse-Jean Jaurès et co-directeur de la mission Géocarnac. Nous sommes également en duplex depuis les studios d'ici à La Rochelle avec Vivien Maté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géophysique à l'Université de La Rochelle. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui pour parler de ce site qui attire chaque année beaucoup de touristes et qui est bien loin de nous avoir livré toutes les informations archéologiques qu'il abrite. On va parler ensemble de votre campagne de fouilles récente et des informations précieuses qu'elle nous a livrées. Mais avant ça, Vincent Art, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de ce site et que vous nous décriviez les lieux où on se situe, où sommes-nous et à quoi ressemble le décor dans lequel on va s'installer imaginairement pendant la demi-heure qui vient.
Alors Carnac, on se situe dans le golfe du Morbihan, au sud de la Bretagne. C'est l'une des concentrations les plus grandes d'Europe en monuments mégalithiques. On compte autour de Carnac plus de 3000 menhirs, donc ou de pierres dressées, et puis énormément de dolmens, de tumulus, donc de sites funéraires. Et l'une des particularités de ce secteur-là, c'est que les deux types de monuments sont intimement liés dans un paysage qui a été entièrement monumentalisé par les populations néolithiques.
Ces menhirs, est-ce qu'ils ont toujours été debout ou bien est-ce qu'on les a relevés dans l'histoire récente, Vincent Art?
Alors les menhirs, en réalité, beaucoup sont tombés au cours du temps. Certains ont été prélevés pour servir aussi dans la construction des murs, des maisons, etc. Et puis, à une époque plus récente, hein, quand on a voulu faire de ce site un site patrimonial, voire touristique, on a redressé un certain nombre de pierres. Et certaines, d'ailleurs, on a apposé, pour le site de Carnac, par exemple, des petites pastilles de couleur pour montrer qu'elles avaient été relevées au début du siècle dernier.
Alors, on a plusieurs alignements. On va en donner les noms. Celui du Ménec, celui de Carmario, celui du Magnot et de Kerlescan. Vincent Hart, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que c'est un site qui est mondialement connu et pourtant qui n'a pas fait l'objet de tant de recherches, on va dire, archéologiques et scientifiques que ça. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors le site de Carnac, il a intéressé très tôt, en fait, dès le 19e siècle, même un peu avant, mais à partir du 19e siècle, on a commencé à faire des plans du site, hein, plus ou moins d'ailleurs fantasmés, et puis des recherches, hein, des fouilles ont été menées à la fin du 19e, au début du 20e siècle, qui ont permis d'avoir un certain nombre d'informations, et puis après, les dernières fouilles, c'est paradoxal, mais ce sont les Allemands, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les alignements de Kerlescan, et depuis, finalement, pour le site historique, celui qui, pour les touristes, est derrière les barrières, les fouilles se sont en quelque sorte arrêtées et le site a surtout été protégé au titre des monuments historiques et puis aussi une grande partie est propriété du Centre des Monuments Nationaux, donc vraiment une patrimonialisation du site.
Qu'est-ce qu'ils venaient chercher ces archéologues nazis à Carnac? Quelles questions ils se posaient en lien avec ce site breton?
Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, moi, que j'ai un peu découvert en préparant cette opération et en partenariat avec une collègue allemande qui s'appelle Rina Perschke, qui a fait sa thèse sur les archives allemandes, c'est que le site, en fait, avait intéressé les Allemands bien avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient venus, le directeur du musée de Berlin était venu sur site pour voir un peu à quoi il ressemblait. Et puis après, dans la perspective, en fait, de l'Allemagne nazie, c'était d'essayer de montrer qu'il y avait une antériorité germanique des populations bretonnes pour, en quelque sorte, justifier la prise de ces territoires. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à la défaite française en juin 40, c'est dès le mois de septembre, entre septembre et novembre, les archéologues, notamment Werner Hülle, arrivent à Carnac pour conduire les premières opérations. Donc ça a été très très rapide et montre en fait l'intérêt de ce site-là, même pour des questions politiques.
De rattacher aussi finalement ces alignements mégalithiques à une culture nordique et finalement de faire de ces alignements un tout, de rapprocher ces alignements de la culture et de l'idéologie nazie.
Tout à fait, oui.
Vivien Maté, je le disais, ce site finalement, donc il n'a pas fait l'objet d'énormément de campagnes de fouilles, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces alignements de mégalithes et comment on les interprète aujourd'hui si on doit partir de ces considérations de départ?
Alors, en fait, ces alignements, je dirais, ils sont quand même en grande partie énigmatiques. Et donc, c'est pour ça qu'il était indispensable, selon nous, de conduire des opérations, des nouvelles études, parce que effectivement, on a cet alignement qui est, ces alignements plutôt subparallèles sur plusieurs kilomètres de long, avec un peu de discontinuité. L'interprétation est un peu complexe puisque de façon assez évidente, puisque on a des pierres qui ont disparu, comme le disait Vincent tout à l'heure, d'autres qui potentiellement sont sur place mais qui sont plus visibles, d'autres qui se trouvaient probablement dans les champs à côté mais que l'on ne voit plus non plus. Donc en fait, il est assez difficile d'interpréter l'intégralité de ce site, alors qu'on en voit finalement qu'une partie, et donc on n'a pas de vision globale finalement.
Et c'est là qu'intervient vos travaux de recherche, comme vous le disiez, Vivien Maté, il fallait retourner fouiller à Carnac, cette fois fouiller de façon non-invasive, on va le dire. Vous êtes géophysicien, Vivien Maté, tandis que Vincent Hart est archéologue. Vivien Maté, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce dialogue que vous nouez et de la façon dont vous avez croisé vos spécialités pour réétudier Carnac?
Oui, alors effectivement, sur ce type de site, alors il faut savoir qu'avec Vincent Hart, nous n'en sommes pas à notre coup d'essai. Nous sommes intervenus sur pas mal de sites, on va dire dans l'ouest de la France, au travers de différents programmes de recherche. En fait, l'idée, c'est de travailler sur la complémentarité de nos approches. On voit très bien que la fouille peut apporter énormément d'informations, des informations qui sont très précises, mais qui sont très localisées et qui, de nature, proviennent d'opérations destructives. En parallèle, la prospection géophysique, elle, peut nous apporter des informations sur les structures qui sont contenues dans le sol, mais de façon beaucoup plus large, beaucoup plus rapide, mais par contre, de façon moins précise. Donc, on s'est rendu compte, nous ne sommes pas les premiers, hein, puisque le couplage entre géophysique et archéologie date, on va dire, de façon relativement importante depuis les années 70-80, surtout en Angleterre. En France, c'est un peu plus récent. On se rend compte qu'en couplant nos approches, on va pouvoir être entre guillemets plus efficace sur le terrain. Et puis, cumuler finalement les avantages de nos méthodes et arriver à obtenir beaucoup plus d'informations que si l'on intervenait indépendamment l'un de l'autre.
Si on rentre dans le détail, Vincent Haar, en quoi consistait cette approche combinée et pourquoi c'était pas gagné de l'utiliser à Carnac, ou en tout cas ça pouvait faire un peu l'objet d'une forme de circonspection de la part de certains de vos collègues?
Alors en fait, il y avait deux choses, c'est-à-dire que il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées en prospection géophysique, et chaque méthode en fait a des terrains qui sont plus ou moins propices à la mise en œuvre de ces méthodes. Alors je pense notamment à la méthode géomagnétique, qui elle va être très sensible alors au magnétisme des structures archéologiques, mais aussi au magnétisme du substrat, c'est-à-dire de la géologie du site. Et là, par exemple, le fait que ça soit des granites, beaucoup pensaient que cette méthode-là notamment n'allait pas fonctionner, ou en tout cas allait donner des cartes difficile à interpréter. Alors évidemment, passer les questions d'autorisation pour intervenir sur un site aussi emblématique de Carnac, la question était de se dire, voilà, quelle méthode on va utiliser, dans quel secteur, et évidemment avec quelle problématique, c'est-à-dire que il n'était pas question d'intervenir de la même manière au sein des alignements dont
on va retrouver Vincent Haar, alors, oui.
Relevé. Et puis à l'extérieur des alignements, où là, ces endroits où on ne connaissait absolument rien du point de vue archéologique.
Vivien Mathé, il faut décrire donc votre approche, et puis ça passe par des outils. J'ai regardé un peu des photos, des vidéos où je vous vois pousser une forme de charrue au milieu de ces alignements de menhirs. Décrivez-nous ces instruments et leur fonctionnement d'une certaine façon.
Oui, alors la fameuse charrue ne retourne pas la terre, mais au contraire, elle capte le signal magnétique des sédiments qui se trouvent en dessous des capteurs. Donc il s'agit d'un chariot qu'on appelle un magnétomètre et qui va nous permettre de cartographier donc le signal magnétique du site à raison de 1 à 2 hectares par jour avec une excellente précision. Et donc, c'est du contraste des propriétés magnétiques entre les blocs de granit qui sont finalement très peu magnétiques et la terre qui les englobe, qui elle va être beaucoup plus magnétique. Eh bien, c'est ce contraste entre les deux qui va nous permettre de détecter d'éventuelles structures dans le sous-sol. Voilà. Donc ça, c'est pour la première méthode, qui est l'approche la plus générale que l'on a utilisée sur le site. Et puis, dans un second temps, sur des zones qui nous paraissent d'intérêt, où la méthode magnétique a détecté des anomalies, c'est-à-dire des zones particulières, on va utiliser d'autres techniques telles que des techniques radar ou bien des techniques de prospection géoélectrique, où là, on va faire passer du courant électrique dans le sol, et puis on va regarder si ce courant électrique va circuler facilement ou difficilement. Et donc s'il circule plus difficilement, ça veut dire qu'on est en présence effectivement de pierres, alors qu'au contraire, c'est plutôt de la terre. Voilà.
Jusqu'à quelle profondeur, Vivien Mathé, vous pouvez faire cette cartographie du sous-sol du site de Carnac?
Alors, dans les faits, le magnétomètre ne nous donne pas directement une profondeur, parce que le signal magnétique dépend de la distance entre les capteurs et les sources magnétiques. Donc, si les sources sont très magnétiques, on peut les voir relativement loin. Bon, là, dans le contexte qui nous intéresse, on va dire que ce que l'on caractérise se situe dans le premier mètre, sous la surface du sol. Après, les méthodes électriques, elles, vont nous permettre, comme la méthode radar, d'être plus précis et là, d'arriver à obtenir des précisions de l'ordre de la dizaine de centimètres, en profondeur.
Vincent Hart, vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que c'était un site pas simple à étudier, Karnak, puisqu'il y a cette dimension, bien sûr, touristique, patrimoniale. On va pas exactement où on veut et on n'a pas le secteur pour soi tout seul quand on fait de la recherche quand on veut. Quels espaces vous avez décidé d'étudier et pourquoi avoir fait le choix de ces parties du site de Karnak en particulier?
Alors on a choisi, on avait un temps limité pour intervenir, donc on a choisi deux secteurs, c'est-à-dire un secteur, en réalité deux secteurs au sein des alignements, c'est-à-dire une extrémité de l'alignement de Kerlescan qui se termine par une enceinte de pierre qu'on appelait avant un cromlech, c'est-à-dire vraiment une enceinte de pierre dressée, et puis un deuxième alignement qui est juste à côté, mais de l'autre côté d'une petite vallée qui s'appelle l'alignement des Magnaux, et puis on a sélectionné deux parcelles contiguës au nord des alignements du Magnaux, qui sont des parcelles de prairies, dans lesquelles, en fait, on n'avait aucune information archéologique. Et l'idée était de voir qu'est-ce que pouvaient donner les méthodes au sein des alignements, c'est-à-dire, et notamment dans les zones qu'avaient fouillées les Allemands. Et dans ce cas-là, ça a été très intéressant de bénéficier, grâce à Arina, des données issues des fouilles allemandes, qui sont parties avec eux, en quelque sorte, en Allemagne, et qui étaient conservées dans les archives pendant plusieurs décennies. Et puis, d'aller tester, après, dans ces prairies, un peu à l'aveugle, pour le coup, voir si il y avait d'autres aménagements à proximité. Bon, on sait aussi par ailleurs, et ça c'est aussi le fruit de prospection, alors cette fois-ci pédestre, c'est-à-dire à pied, que dans les parties boisées, il y en a beaucoup autour de Karnak, on a beaucoup de menhirs, de pierres dressées en place ou chutées, qui montraient, on le savait en tout cas, que le site historique tel qu'il est bien plus vaste que celui qui est derrière les barrières.
Il y avait une emprise plus importante, et ça il fallait pouvoir l'établir justement par cette cartographie un peu d'un genre nouveau.
Ça, et puis moi, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement dans mes recherches, même au-delà de Karnak, c'est la relation entre le monde des morts ou le monde spirituel et le monde des vivants, c'est-à-dire la recherche des habitats. Et là, pour le coup, à Karnak, eh ben, pour l'instant, on est bien en mal de savoir où vivaient les gens qui ont construit ces monuments mégalithiques.
Oui, ça, c'est fait partie des grandes questions qui entourent ces sites mégalithiques. C'est qu'on a non seulement pas les causes, mais on ne sait pas non plus qui étaient vraiment les personnes qui les ont érigées.
Alors, on sait quand même, on va dire, la période. On sait que les premiers monuments ont été construits au milieu du 5e millénaire, peut-être vers 4700, 4500 avant Jésus-Christ, par des populations d'agriculteurs éleveurs, qui sont... Le néolithique, c'est le début de l'économie de production, qui prend la place des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Donc, on est sur des populations néolithiques qui s'installent, qui cultivent des terres, qui développent une forme de religion, en quelque sorte, qu'on va, nous, voir à travers ces monuments, mais aussi à travers beaucoup de gravures. Il y a énormément de gravures sur les parois des sites du golfe du Morbihan, notamment par exemple le fameux site de Gavrinis. Après, toute la question, c'est de savoir pourquoi avoir aligné toutes ces pierres. Les débats font rage depuis le 19e.
Ouais. Pourquoi avoir érigé toutes ces pierres non loin de l'océan, il faut le dire. Vivien Maté, si on en vient, donc on a parlé justement des objectifs de recherche, savoir finalement l'emprise totale du site, aller au-delà du site, de ce qu'on perçoit à la surface du sol, chercher finalement des pièces manquantes aussi dans ces alignements, parce que parfois il y a des espaces trop larges entre certains menhirs et il fallait voir s'il y avait des choses sous la terre d'une certaine façon. Quels ont été les résultats? Est-ce que le premier résultat déjà pour vous, ça a été de vous rassurer, de vous dire que votre méthodologie fonctionnait bien pour Karnak et qu'elle pouvait donner des résultats importants, on va le voir?
Oui, tout à fait. Effectivement, on sait que notre méthodologie est déjà largement éprouvée sur beaucoup de secteurs et dans beaucoup de contextes. Mais là, effectivement, à chaque nouveau site, il y a toujours une petite inconnue. Donc, effectivement, on a été très vite rassurés dès les premières heures de prospection. Et puis, sont apparus, effectivement, sur les premières cartes, dans les alignements, comme ce que vous évoquiez, donc des blocs entre deux blocs dressés à des endroits où il y avait un espace qui nous semblait anormalement grand. Eh bien, en fait, on a pu effectivement retrouver la position de blocs visiblement couchés, enfouis, non visibles du tout à la surface.
Donc là, on a des menhirs inconnus à Carnac. Donc ça, c'est une première belle découverte. Vincent Hart, quelles autres découvertes vous avez pu réaliser grâce à ce travail de cartographie du sous-sol de ce site?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de ces méthodes nous permet de découvrir des éléments de toutes les périodes. C'est-à-dire qu'on a pu, outre ces menhirs, trouver des traces d'anciens chemins. On a même trouvé les traces des bornes métalliques mises par les Allemands au cours des fouilles des années 40, hein, qu'on retrouve sur les plans qu'on a pu retrouver dans les archives. Les découvertes, je dirais, les plus intéressantes et les plus inattendues, on les a eues justement dans les parcelles qui étaient situées au nord du Magnot, c'est-à-dire hors des alignements, où là, on a des traces de menhirs qui sont enfouies sous terre, des traces vraisemblablement de foyers. Alors, il faut savoir que sur la majorité des sites découverts, notamment par l'archéologie préventive, c'est-à-dire les travaux au sein de la ville de Carnac, mais à la Trinité-sur-Mer ou dans un bloc Mariaker, voilà, dans tous ces villages autour de Carnac, on retrouve très régulièrement des foyers datés de la période du néolithique moyen, donc la période dans laquelle ont été construits les alignements, qui correspondent à des foyers à pierre chauffée, c'est-à-dire un peu les fours polynésiens, c'est-à-dire des foyers qui ont servi à cuire peut-être des aliments, peut-être utilisés aussi dans certaines cérémonies ou rituels. Et puis la découverte, je dirais, la plus inattendue et la plus intéressante, je dirais, pour nous archéologues, c'est la découverte d'un voire deux, mais en tout cas un grand tumulus d'à peu près 80 à 90 mètres de long, parallèle aux alignements du Magnot, à 40 mètres à peu près. Et ce tumulus n'est absolument pas visible aujourd'hui dans le champ.
Les tumulus, donc, c'est des espaces plutôt funéraires.
Alors tumulus, hein, c'est un tas de terre ou de pierre. Alors on utilise, par exemple, quand c'est en pierre, on appelle ça un cairn. Donc il y en a beaucoup en Bretagne. Ça peut être aussi des tumulus de terre, ce qu'on appelle des tertres. Alors là, le terme de tumulus, on l'utilise de manière un peu générique quand on n'a pas fouillé. Mais quand même, grâce à la méthode magnétique, on sait que cette masse, elle est plutôt, on va dire, de terre. Par contre, la périphérie de ce tumulus, donc son est un mur en pierre. On sait que voilà, c'est quelque chose qui est avec des matériaux. Et quand on compare avec les données issues des fouilles, par exemple du tumulus du Magnot par l'ancien conservateur du musée de Carnac qui s'appelait Le Rouzic, ou le tumulus de Carlescan fouillé par les Allemands, on sait que les tumulus qu'ils avaient fouillés à l'époque étaient ceinturés par soit des pierres dressées, des menhirs, soit des murettes en pierre. Donc on est dans le même schéma que ceux qui étaient connus jusqu'avant.
Et Vincent Hart, vous évoquez le fait qu'il y en ait peut-être un deuxième. Alors on parle là d'un tumulus qui est quand même de taille assez conséquente. Il fait 85 à 90 mètres de long pour au moins 8 mètres de large. Et il y aurait peut-être éventuellement un deuxième tumulus plus grand encore?
Oui, alors c'est toujours pareil. En fait, la difficulté, c'est ça qui est très intéressant dans le travail qu'on peut faire avec Vivien et son équipe, c'est que y a un dialogue. C'est-à-dire que par exemple, la seconde trace qui pourrait correspondre à un tumulus, c'est plus de 100 mètres de long, 120 ou 130 mètres de long. On aurait eu du mal à l'interpréter, mais là, étant donné que c'est la même réponse que celui qui, en tout cas, a une forme assurément de tumulus néolithique, on peut se questionner pour cette deuxième anomalie. Hein, c'est-à-dire qu'avant de fouiller, on appelle ça des anomalies magnétiques. Et donc finalement, peut-être deux tumulus à côté du Magnot, sachant que jusqu'à maintenant, on en connaissait par, je dirais, la littérature archéologique, au moins six. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a repris la documentation, on s'est rendu compte que le monument qu'on avait découvert, hein, le premier dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, vraisemblablement qu'il était encore visible dans les années 20. Zacharie Le Rouzic parle d'un monument sur lequel il a fait une fouille assez rapide avec les époux Pécard. Donc ce monument-là, déjà à l'époque, était, il explique, hein, quasiment disparu. Et finalement, après, il a dû sans doute être complètement terrassé pour les champs, et on l'a retrouvé grâce à ces méthodes.
Vivien Matté, est-ce que vous avez l'impression, collectivement, c'est une question que je vous pose à tous les deux, mais je vous la pose à vous, Vivien Matté, est-ce que vous avez l'impression collectivement de finalement, avec ces beaux résultats, qui sont des résultats quand même très importants, parce que tout d'un coup, on a plein d'éléments qui surgissent sans surgir de ce sol, est-ce que vous avez l'impression de relancer Carnac dans son intérêt scientifique et archéologique?
Je dirais oui, mais très très modestement. Hein. Effectivement, moi ce que je regrette, c'est que finalement, qu'il n'y ait pas eu jusqu'à maintenant plus de recherches. Et d'ailleurs, j'ai été surpris moi d'apprendre, parce que je connaissais pas aussi bien le site que Vincent Arr. J'étais surpris il y a 2 ans lorsqu'on a commencé à monter les dossiers, de voir que finalement ce site qui était emblématique, enfin qui est emblématique et que je pensais déjà très largement connu, eh bien, j'ai découvert finalement que finalement relativement peu de recherches avaient été menées. Et c'est vrai que ben c'est, je dirais, un peu d'autant plus stimulant d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que ça nous donne envie aussi d'y retourner, bien sûr.
Oui, bien sûr. Vincent Arr, du coup, quelle piste ce type de travaux particulièrement beaux, importants, je le répète, ouvre? Quelle campagne vous allez mener à la suite de ces travaux de cartographie?
Alors là déjà, bon, cette année-là, cette année 2024 était une année test, hein, donc elle s'est révélée concluante. Alors plus pour certaines méthodes que pour d'autres. Hein, la méthode radar, par exemple, a donné des résultats un peu moins intéressants dans ce contexte-là, et peut-être qu'on va pas forcément la reproduire. Donc on sait maintenant, quelle méthode on va utiliser. Donc on part dans l'idée en 2025 de poursuivre ces investigations géophysiques sur d'autres terrains, hein, autour des alignements et dans les alignements. Et puis, in fine, ça c'est un petit peu le passage, je dirais presque obligé, c'est qu'à un moment donné, il faudra vraisemblablement passer par la phase fouille archéologique, parce que toutes ces anomalies qu'on va décrire, analyser, caractériser, sans passer par l'étape de fouille qui nous permettra d'avoir des éléments de datation, des éléments de caractérisation de l'architecture, etc. Bon, voilà, donc in fine, en tout cas, si on nous en donne la possibilité et l'autorisation, il serait intéressant de mener de nouvelles fouilles pour, là aussi, participer à ce renouveau des connaissances, mais en s'inscrivant dans une histoire très ancienne de recherche. C'est-à-dire que nous, ce qu'on apporte, c'est qu'une pierre, effectivement, comme l'a dit Vivien, après plus d'un siècle de recherche.
Pierre, c'est le mot adapté. On parle d'une inscription aussi de Carnac comme au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, ce serait compatible, Vincent Arr, aussi, avec des travaux d'archéologie, on va dire, plus de fouilles, là, classiques. Et on parlait tout à l'heure de ce côté destructeur, potentiellement, de ce type de fouilles.
Alors c'est compliqué, hein. C'est sûr que Carnac d'une certaine manière est un peu mis sous cloche pour être protégé, hein. Et ce processus de classement, il a été très long, hein. Il va sans doute aboutir à la fin de l'année 2025, et effectivement ça sera une discussion. Alors il faut savoir que le classement au patrimoine de l'UNESCO, l'aspect recherche fait partie aussi de la valeur ajoutée, hein, dans ce cadre-là, donc c'est pas incompatible. Et puis après, je dirais, les découvertes qu'on a pu faire sur tous les terrains qui ne sont pas dans le périmètre directement des alignements nous permettent aussi d'avoir d'autres zones d'investigation potentielles pour faire des fouilles.
Vivien Maté, quelles armes vous fourbissez? Quel type d'instruments, d'outils vous pensez utiliser pour ces prochaines campagnes de fouilles, ou tout simplement inventer?
Alors pour ces prochaines campagnes, nous allons déjà continuer à utiliser les outils qui nous sont apparus particulièrement performants, tels que la prospection magnétique et couplée avec la prospection électrique. Mais il y a d'autres zones qui vont nécessiter de la mise en place de nouvelles méthodes, enfin plutôt de méthodes qui n'ont pas été déployées jusque-là, puisque l'on s'adapte à la fois à l'environnement et aux problématiques, notamment dans des zones humides. On a des zones basses qui viennent recouper le site, et dans lequel on peut envisager peut-être dans le futur, à moyen terme, d'y faire pourquoi pas des carottages pour étudier le paléo-environnement du site. Et donc on va pouvoir réaliser des coupes, des sections électriques à l'intérieur de ces remplissages, pour préparer le travail là, non pas des archéologues mais plutôt des géomorphologues. Et puis sur d'autres, je dirais, à chaque nouvelle problématique, on va fouiller dans la caisse à outils et puis essayer de trouver la combinaison qui nous paraît la plus adaptée.
Et on a hâte de voir Carnac continuer de se réveiller avec vous, Vivien Maté, Vincent Arr. Merci beaucoup. Un grand merci également aux équipes des studios de France Bleu à La Rochelle et à Toulouse. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à Marie-Claire Oumabadi, aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires, l'INRAP et l'INA.
Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.